Anorio, donc art thérapeute, analyste d'orientation jungienne, superviseur des pratiques professionnelles, formée en art thérapie au MAT, donc mouvement des art thérapeutes, magistère relations internationales et projets de développement. Tu exerces en Bretagne, en cabinet libéral et auprès de différentes structures, avec la médiation écriture, couleur et mouvement en nature. Mais tu pourrais rajouter quelque chose aussi parce que tu es très proche d'un groupe régional et pas que très proche.
Oui, donc je suis référente aussi régionale sur la Bretagne, avec Michel maintenant qui m'a rejoint aussi. Alors donc, moi j'interviens depuis une quinzaine d'années et j'avais envie de vous proposer une approche plutôt sensible, au sens de intuition, laisser vraiment la place à l'intuition, au sentiment, à tout ce qui va être les sensations, et un petit peu lâcher la partie mentale. Donc la typologie, là, elle vient plutôt de Jung. Et vous allez voir. Alors, on a déjà vu beaucoup de choses là depuis hier. Donc, je ne vais pas rentrer à nouveau sur le processus de création. Je renvoie sur le colloque qui avait eu lieu avec la FAT en 2012 sur le processus, par exemple, de création. Il y a des choses très intéressantes qui avaient pu être écrites dans celui-là, vous voyez, sur l'identité, dans ce colloque-là. En tout cas, simplement souligner que le processus de création, ce qui va importer, c'est le mouvement, c'est la traversée, c'est la transformation que va nécessiter la création, et non pas l'œuvre elle-même, le geste, l'aboutissement, ce qui va pouvoir être voir. Donc c'est ce mouvement-là que moi j'avais cherché et que je vais accueillir. Anzio aussi, il avait vu cinq étapes dans le processus de création. Bon, il y a plein de choses théoriquement, vous les verrez dans l'article ou dans beaucoup d'autres éléments. Moi, j'ai envie de vous inviter à m'accompagner avec Liliane. Alors, Liliane, c'est une jeune femme qui était très enthousiaste pour participer à des ateliers d'écriture, pas d'écriture, pas du tout. Je suis sur autre chose parce que l'écriture, c'est une de mes médiations, mais non, non, des ateliers d'art-thérapie à la Ligue contre le cancer. Donc, à la Ligue contre le cancer, en fait, il y a eu des séances mises en place. On était sur 9 séances en réalité, au départ. Donc 9 séances sur 2, 3 mois, d'accord? Tous les 15 jours environ. Et donc cette jeune femme, Liliane, avait particulièrement envie de participer au atelier. Alors le dispositif, c'était quoi? Des ateliers de 2 heures, un petit groupe, en général entre 4 et 6 personnes. Et puis, moi, je fais toujours un même rythme, à savoir un temps, un rituel d'abord au démarrage, un temps pour se poser, hein, de respiration, un temps de création, un temps de partage et un rituel de fin. Pour Liliane, il y a comme une urgence à déposer ce qu'elle a découvert avec l'annonce du cancer. Elle a besoin de s'alléger, de se retrouver, de se réconcilier. Et pour elle, le temps de la séance, il n'est jamais suffisant. Elle aimerait poursuivre les créations qu'elle esquisse et elle trouve que évidemment, ben voilà, il y a comme une sorte d'emballement et elle voudrait la séance suivante le reprendre. Et en fait, la séance suivante, elle ne reprend pas la même création et elle redécouvre autre chose. Alors, cette première création, suite à l'annonce du cancer, donc, et moi, je vais être observatrice, témoin d'écroulement, voilà, comme un vacillement complet de cette personne qui parfois est prise de panique. Et puis, je vais aussi être témoin de rebondissement. Alors, je me rends compte qu'il y a certaines mises à distance de sa part, hein, comme elle l'écrit là. Donc, c'est un travail collage graphique. Il y a plein de choses à disposition, plein de types de papier, plein de types de crayons, aquarellables ou autres, enfin voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est des yeux en bas. Moi, j'ai un truc qui bloque là-bas, mais en fait, c'est des yeux avec comme un regard. Et puis, à un moment donné, elle s'est, en fait, il y a eu effondrement, et puis elle retrouve en atelier une force, une énergie qu'elle va même trouver dans les mots qu'elle découpe, qu'elle déchire, et elle commence la lutte. Et là, elle va se découvrir guerrière, en fait. Elle va découvrir en elle une force, une énergie, une puissance dont elle se sentait totalement incapable. Et ça se voit, ça s'est vu sur l'atelier, ça s'est vu tout au long de ses créations. Donc elle était comme surprise de se laisser surprendre. Elle écrit là-haut, j'ai misé sur l'art et sur la vie. Elle découvre le et. À l'avant-dernière séance, c'est une vague qui vient à elle, qui s'impose, vague à l'âme, vague qui la porte. Et puis à cette séance-là, il y a plusieurs personnes qui sont absentes. En fait, les autres personnes sont absentes. Elle se retrouve en séance avec moi, donc comme une séance individuelle, que j'accepte évidemment. Et dans l'échange, dans ce qui vient, c'est elle a envie de découvrir le slam et on part sur du slam. Et on part sur du slam et la vague, ça devient un slam. Et cette personne aujourd'hui, elle est slameuse. Et son nom, alors c'est très étonnant parce que j'ai eu un grand clin d'œil, elle m'a écrit ce matin. Alors ça faisait des mois que je l'avais pas, que j'étais plus en contact. Et elle m'a dit, je lui ai demandé si je pouvais donner son nom de slameuse. Et son nom de slameuse, c'est Slamazone. Slamazone. Il y a quand même, les synchronicités sont quand même assez troublantes parfois, je trouve. Voilà, donc cette jeune femme, je l'ai vue vaciller. Et puis, en fait, aujourd'hui, elle s'est remise en mouvement. Donc là, j'avais mis la photo aussi avec le lieu. C'est pas ici, hein, c'est pas dans ce lieu-là qu'on a fait les ateliers. Hein. C'est à la Ligue contre le cancer à Rennes. Mais là, c'était pour faire une photo pour que vous ayez l'ensemble de ces créations. Et donc, j'ai intitulé cet accompagnement-là Liliane, de l'expérience du chaos renaître. À un moment donné, elle a contacté l'informe et elle lui a redonné forme dans différentes modalités, dans différentes possibilités. Je voudrais maintenant partager un autre accompagnement qui, lui, s'est fait dans ce dôme là que vous avez vu tout à l'heure. Donc là, il faudrait enlever toutes les créations, mais vous visualisez un peu le lieu. Parce que c'est un lieu très cocoon, effectivement, avec la moquette. Et là, c'est l'accompagnement d'une jeune demoiselle, d'une jeune fille, en fait. À ce moment-là, elle a 9 ans, que j'appelle Églantine. Et cet accompagnement-là, je l'ai intitulé Églantine ou oser désirer. En fait, Églantine, elle n'a pas envie de venir en atelier. Elle a 9 ans, elle a un suivi médical conséquent depuis plusieurs années, du fait d'une greffe et de difficultés de santé. Ses parents formulent une demande d'accompagnement en art-thérapie. L'équipe médicale, qui est très conséquente, y est favorable. Bon, je vais me rendre compte en fait que les parents sont inquiets, en particulier de certaines formes de repli d'Églantine, de non-communication. Elle, Églantine, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin. Elle, et puis, enfin si, il y a quand même une chose explicite, elle ne veut plus voir de psy. Ça, c'est formulé. Alors, il y a une première phase de création, de réalisation, que j'appellerais plutôt paillettes, rose et paillettes en fait. Quelque chose où on met en avant des trucs sympas, des bisous, vous voyez ce que je veux dire. Et puis il y a une deuxième phase qui va s'engager. Et dans cette deuxième phase, Églantine va créer des marionnettes, elle va se mettre à jouer. Et il va commencer à y avoir des improvisations. Et là, il y a comme des éclairs. À ce moment-là, il y a une cascade qui apparaît, une cascade de la mort. Il y a des destructions qui arrivent. Et il y a des pans d'humanité qui se cassent la figure. Dès qu'elle se met à jouer, le sang qui commence à couler, ça s'étripe, ça se déchire. Et puis j'observe aussi que souvent, Églantine, elle construit, elle fabrique par exemple des marionnettes. Et elle m'en donne une marionnette, il faut qu'elle soit morte de trouille, elle me dit. Tiens, elle est morte de trouille. Ou lui, il est mort de trouille. Vas-y. Il y a quelque chose de. Elle me dit pas vas-y, hein. Elle me le balance et puis vas-y avec ça. Et puis j'aimerais bien aussi vous raconter une séance en fait. Dans cette séance, elle démarre en disant ça va bien. Et puis elle s'allonge sur la moquette que vous avez vue, la moquette blanche là. Elle se met dans un plaid tout moelleux, tout doux. Et puis elle reste là. Moi je me dis bon, ok, circuler, il n'y a rien à voir peut-être. Et puis à un moment donné, elle s'interroge et puis elle me dit mais faudrait réussir à trouver le secret. Une phrase. C'est assez rare les phrases complètes en dehors des jeux en tant que telles. Hein. C'est assez rare avec Églantine. Alors, surprise, moi je lui ai demandé ça pourrait être quoi le secret? Et elle qui répond Ben, je sais pas, je suis trop nulle de toute façon. Alors moi, je lui ai dit, bah non, t'es pas nulle. Un secret, bah c'est secret, ben, on ne sait pas ce que c'est. Ben, on va chercher. Et puis après, là, c'est dans le cours de la séance, à un moment donné, elle se met la tête sous un tissu. Et puis elle dit, eh ben, s'il y avait quelque chose, ben, s'il y avait quelque chose, je réponds. Ben oui, s'il y avait quelque chose là-dessous, eh ben, on y va. Et on y est allé. Après, elle me dit, il y a des marches. Il y a des marches. Ah bon? Il y en a combien? Il y en a 18. J'y vois rien, elle me dit. Moi, je réponds, bah, moi non plus. Il faudrait quand même qu'on ait de la lumière. Et je vais, comme si j'allais chercher de la lumière, et je lui tends quelque chose qui ressemblerait à la lumière. Et elle dit à ce moment-là, il y a une grande porte. Elle est fermée. J'ai pas la clé. Et elle m'intime, va chercher la clé. Alors je fais comme si je remontais, je redescends, je lui donne quelque chose. Et elle me dit, ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert, mais la porte, elle est bloquée. Allez, alors, ensemble, on se met à pousser la porte. Allez, à la une, à la deux, à la trois, on pousse la porte et ça s'ouvre. Et à ce moment-là, Églantine, elle me dit, c'est incroyable, il y a un jardin, il y a plein de choses, je vois plein de choses. Et elle me dit, faut que je dessine tout ça, faut que je peigne. Et elle se met à raconter, à parler, à peindre, à dessiner. Et elle dessine tout ce qu'elle voit là, tout ce qu'elle imagine là. Et en fait, cette séance-là, elle va être majeure pour, dans le cheminement avec Églantine, pour restaurer du plaisir déjà, du rire aussi, et pour restaurer de la confiance, ensemble, bien sûr. Donc j'avais simplement envie de souligner déjà des premiers éléments. Bien sûr, jeu et création. Moi, cet accompagnement-là, il me montre la force, la puissance de jouer ensemble. Hein, c'est évidemment Winnicott qui disait que c'est en jouant, et peut-être seulement quand il joue, que l'enfant ou l'adulte est libre de se montrer créatif. Ce qui compte dans le jeu, c'est le contact qui va s'établir entre les joueurs et non le contenu du jeu ou son aboutissement. L'acte de créer est vraiment constitutif de la personnalité. Et c'est par le jeu que l'enfant fait l'expérience de la création. Un deuxième élément que je voudrais, une deuxième notion que je voudrais souligner, c'est qu'est-ce que c'est que cet imaginaire, cette imagination, qu'est-ce que c'est que ces rêveries-là qui sont arrivées? Et évidemment, avec Églantine, je me rends compte, ça se voit, l'imaginaire, c'est une porte. Et ce n'est pas une imagination qui ouvre à une sorte de rêverie solitaire, à des errements où on se baladerait, mais c'est une imagination de création dans la relation. Et donc, d'une position d'endormissement, d'attente, Églantine, elle s'est mise en quête grâce à la relation thérapeutique. Du fait qu'elle était contenue, bien bien protégée, vous le voyez là dans ce lieu, dans cet espace qui est déjà en lui-même un cocon, sous cette couverture qui a encore été une protection, dans la présence, une présence où la confiance est instaurée, où vraiment l'échange était patent. Et à ce moment-là, en fait, Églantine, elle a pu douter, elle a pu dire j'en sais rien, elle a pu dire. Elle a pu tenter. Elle a réussi à tenter, en fait, et à chercher et à jouer, et comme ça à créer et à se construire elle-même, en fait, à s'édifier elle-même. Voilà. Alors, sur ces notions de rêverie et d'imagination, on peut penser à Bion, évidemment, avec la rêverie maternelle. Il y a aussi Sègre, Henri Sègre, qui souligne que le créateur se situe dans cet état de rêverie ouverte et accueillante à tous les possibles. Là, c'est dans un livre sur l'art thérapie, essai sur l'art thérapie de Via Kikuson. Peut-être un apport plus spécifique qui est le terme même d'imagination active, là qui est lié à Jung, hein, Carl Gustav Jung. Toute sa vie, c'est un processus de création absolument incroyable. En fait, Jung, entre les années début du XXe siècle, 1913-1917, il est complètement désorienté. Il va faire l'expérience pratique d'une confrontation avec son inconscient. Il va laisser jaillir en fait des visions, des images. Il va les dessiner, il va les peindre, il va les calligraphier. À partir de là, il va les analyser. Avant de les analyser, pardon, il va les faire dialoguer entre elles. L'imagination active, elle va se situer à cet endroit-là. Il va les faire dialoguer. Et ensuite, toute la suite de sa vie, ça sera l'analyse de tout ce qui a été, de tout ce qui a émergé, de tout ce qui a jailli dans ces différentes modalités aussi de création. Et donc, avec Jung, avec l'imagination active, j'ai retrouvé ça dans un vocabulaire sur Jung, je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. L'imagination active permet de donner une forme sensible au contenu de l'inconscient et de s'y confronter. Elle est très différente d'une rêverie passive qui ne permettrait pas l'intégration des contenus ainsi mis à jour. La personne relie en elle les plans conscients et inconscients. C'est en particulier Marie-Louise von Franz et Jung, dans plusieurs livres sur l'imagination active, qui abordent ces questions-là. Et en même temps, l'imagination active, c'est, il le pointe, hein, c'est un processus qui est complexe et qui n'est pas du tout anodin, au sens de, voilà, il faut se former, il faut s'accompagner, il faut être pareil, il faut avoir des pairs qui nous accompagnent dans l'intégration de cette approche-là par l'imagination active. Alors, je ne vais pas aller sur un point, sauf si j'en ai le temps après, mais je suggère simplement quelque chose. L'accompagnement avec Églantine, pour moi, beaucoup parlé de questions de secrets, d'intrigues, d'énigmes, de codes qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je suis tombée très, très récemment sur un texte de Roussillon, René Roussillon, qui s'appelait L'incréé et l'intrigue. Je vous en dirai plus si on a le temps. Là, ce que je voudrais simplement dire, c'est que troisième chose fondamentale pour moi, c'est que là, c'est la rencontre qui permet d'exister. La relation, la rencontre. La rencontre, ça ne se décrète pas, ça ne se décide pas, ça s'explore. Ça s'expérimente. Il y a un psychiatre, Youssef Mourtada, qui est chef de service au pôle psychiatrie là, au Mans, dans la Sarthe, qui disait que la formation théorique, en l'occurrence, là, pour lui, c'est en psychiatrie, c'est pas la formation, c'est pas les connaissances accumulées qui vont faire l'être, c'est d'être face à face avec la personne. En l'occurrence, il parlait d'une personne qui était touchée par la schizophrénie. Et c'est bien dans ces rencontres-là que on développe ou pas une qualité de présence. Alors, je voudrais dire encore que ma pratique, la professionnelle, depuis plus d'une quinzaine d'années, m'a démontré qu'accompagner le processus de création suppose que l'art-thérapeute se désencombre de lui, de ses théories. Il en faut des théories, elles sont absolument essentielles. Il faut qu'il y ait un étayage théorique, mais le temps de la rencontre, il n'est pas sur l'endroit de la théorie. Pour moi, c'est évident. C'est aussi la question de se désencombrer de ses techniques et de ses appétences artistiques. Donc là, je sais qu'il y a des grandes différences d'appréciation là-dessus. Et enfin, surtout, se désencombrer de ses projets pour l'autre. Pour moi, il y a une sorte de lieu du dépouillement de la vulnérabilité de l'art thérapeute. Et c'est cette rencontre authentique d'être à être dans nos vulnérabilités, dans nos fragilités, qui permet réellement d'y être. Et j'aimerais oser une intuition. Selon moi, la relation art thérapeutique ouvre la considération. La personne, elle est considérée comme sujet. Ses œuvres, ses créations sont considérées comme des œuvres. Et elle est invitée à se considérer et se reconnaître elle-même comme artiste de sa vie. Selon moi, en atelier, la personne accompagnée, l'art thérapeute, s'autorise à créer à partir de rien. Hein, c'est un extrait d'un ouvrage dont je vous parlerai. Créer à partir de l'impossible qui nous paralyse et qui nous détermine. Créer à partir de rien du tout que nous sommes. Nombreux sont les mouvements de retrait, alors là je lis ce petit extrait, les tentatives de fuite des personnes que nous accompagnons. Ben moi je sais pas dessiner, je sais pas peindre, je sais pas danser, je sais pas rien. Nombreux sont les empêchements à créer, les interdits d'être. On entend souvent des formules comme ben non, t'arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est gâché. Et les êtres se retrouvent amputés d'eux-mêmes par ces sentences interdictrices, castratrices, abusives. Là, c'est un extrait de l'art-thérapie existentielle. Ma proposition, ça serait de quitter la sidération, quitter le figement. Et la sidération, selon le dictionnaire Littré, c'est un état d'anéantissement subi, bon, qui est produit par certaines maladies. Et c'était autrefois également attribué à l'influence malfaisante des astres sur la vie ou sur la santé d'une personne. Hein, du latin, ça vient du mot sidus, astre. Et puis évidemment, Nous, aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot de sidération. C'est aussi l'anéantissement soudain des fonctions vitales avec un état de mort apparente sous l'effet d'un violent choc émotionnel. Hein, on en parle par exemple sur, évidemment, en lien avec les événements traumatiques ou des rencontres néfastes. Et donc, la proposition, ça serait de quitter la sidération pour la considération. Puisque cum sidere, c'est être avec l'autre. Et donc, considération, c'est l'examen attentif par les yeux, par l'esprit, puis après, c'est une question d'égard et d'estime. Alors la considération, ça serait de regarder ensemble les étoiles, de les regarder attentivement en leur accordant de l'importance, en les considérant, et ainsi inviter à un nouveau récit de soi. Et puis pour terminer, je voudrais dire que on est souvent voilà, on déplore le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en art-thérapie. Alors là, on vient d'en sortir un. On a mis 1 an et demi à le sortir. Il va sortir le 3 octobre. Il s'appelle Art-thérapie existentielle dans l'intimité de ses acteurs. Moi, j'ai l'honneur de le coordonner avec deux collègues art-thérapeutes, Rosario Orenes Moulin et Nadine Rey. Il est préfacé par Youssef Mortada. Il y a une nouvelle, enfin, si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu plus. Et donc, c'est un recueil de témoignages d'art-thérapeutes qui donnent une lecture sensible de leurs accompagnements. Ce ne sont pas des vignettes cliniques en tant que telles, c'est vraiment, voilà, ils ouvrent leurs ateliers pour donner à voir les gestes, les mots, les paroles, les créations qui s'esquissent. C'est aussi un ouvrage qui donne la parole à des personnes accompagnées par des art-thérapeutes. Et ils sont également, on a également des textes de personnes qui ont été formées au mouvement d'art-thérapeute, le MAT, là. C'est une formation longue, où il y a une approche plurimédiation et puis qui permet d'aller dans de l'expérientiel. Donc là, on a aussi donc des apprentis qui donnent leur vision de ce qu'ils ont traversé grâce à la formation. Alors, pour terminer, j'aimerais dire que l'approche existentielle, pourquoi? Parce qu'on est bien sûr quelle forme de présence on va soutenir en nous, quel être thérapeute on est. Et puis, Binswanger parle des formes d'échec de la présence. Comment, par le processus de création que nous soutenons, on permet à la personne de retrouver une présence à elle-même, à la vie, aux autres, au monde. Voilà. Donc, dernier mot, un petit résumé. Se déprendre du faire pour être, bon, facile à dire. S'ouvrir à sa propre vulnérabilité en tant qu'art-thérapeute. Et puis donner place à l'imagination créatrice dans la relation. C'est vraiment fondamental.
Merci beaucoup, Anne.
Merci
Bah,
à vous.
alors, je pense que les gens ont été un petit peu passionnés par ton intervention. Donc, en fait, on a beaucoup de commentaires qui te remercient beaucoup bah, de ces deux cas cliniques, de ta présentation. Donc, assez peu de questions. Il y avait tout de même quelqu'un, et ça va intéresser tout le monde parce que bon, c'est, on va revenir certainement sur une question qu'on s'est tous posée lors de notre formation, mais ça serait intéressant d'avoir ton avis là-dessus puisqu'on a vu les photos de toutes les œuvres de ta, sur ton premier cas clinique. Il y a une personne qui s'interrogeait sur ton rapport avec la récupération des productions par les patients.
Alors, petite précision, là j'ai pas mis, il y a quelques photos que je n'ai pas mises, en particulier de la terre, en fait. Il y avait eu un travail de terre qu'avait souhaité faire la personne. Donc elle avait aussi réalisé des choses là-dessus. En l'occurrence, cette personne-là, Liliane, elle a été profondément touchée par le travail en art-thérapie. Et elle m'a dit à un moment donné, je voudrais qu'à la Ligue contre le cancer, ça se sache. Donc elle m'a demandé en fait de garder les créations pour pouvoir les exposer et pour pouvoir en parler. Donc c'est pour ça que particulièrement sur cet accompagnement-là, là j'ai les créations avec moi parce que bah, je les réexpose par moments en fait dans les locaux même de la Ligue contre le cancer. Voilà, parce que ça se lie en fait, ça se lie assez aisément son cheminement avec ses créations. Sinon, les œuvres elles-mêmes. Il y a un accord que je passe avec les personnes, c'est que en fin d'accompagnement, quand on boucle le cheminement ensemble, on décide, la personne décide ce qu'elle veut faire des œuvres. Donc elle les transforme sur place en atelier, elle les détruit On peut les brûler ensemble, parce que dans le jardin, en fait, j'ai un espace où on fait un feu et on peut. Voilà, il peut y avoir des choses. On crée à partir des œuvres elles-mêmes. La personne peut en ramener. En tout cas, c'est quelque chose qui se travaille dans le processus même de fin d'accompagnement. C'est extrêmement important.
En t'écoutant, Anne, ça me faisait penser à des choses et dans le chat aussi, il y avait cette idée de rêverie partagée, d'imagination active. Est-ce que toi, tu utiliserais l'idée d'état de conscience modifié, genre état hypnotique ou pas, parce que certains art thérapeutes peuvent l'utiliser. Est-ce que tu penses qu'on est dans cet état-là de conscience modifiée quand on est en imagination active, dans cette rêverie éveillée partagée, ou pas? Est-ce que...
Moi, je peux pratiquer du rêve éveillé façon de Soile en tant que tel, et où on va effectivement dans cette modification de conscience. Dans les ateliers, ce temps corporel permet aussi d'être dans autre chose. Le sas, là, le sas de marcher là, dans l'espace. En imagination active, oui, ça peut. Mais c'est tout à fait. Ça dépend complètement, c'est toujours pareil, en fait, ça dépend complètement. Il peut y avoir quelque chose. En fait, je n'en ai pas parlé là parce que ça ferait trop de choses, mais j'ai une marionnette, par exemple. Et cette marionnette-là, eh bien, il y a des moments, elle arrive dans l'atelier et elle raconte quelque chose. Vous voyez? Mais je suis comme je suis là actuellement avec vous. C'est-à-dire que j'essaye d'être au plus près avec vous et en même temps. Je ne suis pas dans un état modifié de conscience, je dirais. Je suis dans une. J'essaie d'être plus totalement, entièrement là, tel que moi je suis. Et la marionnette, je lui demande quelque chose, par exemple. Ou la marionnette, ça se met à dire quelque chose. Vous voyez? Et là, il y a un dialogue de cette imagination active qui se produit.
On avait justement une question sur l'utilisation de la marionnette. Je ne retrouve pas qui a demandé, mais
Il y a
voilà.
une personne qui, par rapport justement au tout ce que tu as proposé sur le secret, par rapport à ton discours autour du secret, cette personne s'interrogeait si justement l'utilisation de la marionnette pouvait pas venir soutenir ce travail-là, cet Alors, c'est
accompagnement
exactement
du
ce qui
secret.
s'est passé avec Églantine, c'est exactement ça. Et alors, ce qui est tout à fait incroyable, enfin, moi je trouve ça incroyable, c'est fou. J'ai une marionnette que j'aime beaucoup, qui est une taupe. Et vous savez quoi, la taupe, elle voit rien. C'est-à-dire qu'elle n'y comprend rien, elle n'y voit rien. Alors si elle y comprend, elle sent, elle perce, elle pressent. Et peut-être je peux vous dire qu'avec Églantine, à un moment donné, elle a été hospitalisée, mais étonnamment, quelques semaines avant l'hospitalisation, c'était en début d'été, elle m'avait demandé ma marionnette taupe. Elle sait que c'est une marionnette que j'aime beaucoup. Et elle l'a emmenée à l'hôpital parce qu'elle avait besoin que ma marionnette discute avec sa marionnette à elle. Sa marionnette représentant son greffon, en fait. Ça, c'est les marionnettes qu'elle avait toujours, hein, et en plus des marionnettes qu'elle créait sur place. Et il y a quelque chose qui s'est passé d'une présence aussi des deux marionnettes qui se racontaient des choses, en fait. Elle a donné à parler à ses marionnettes. Et les marionnettes ont permis un décodage pour ses parents. Parce que des fois, elle ne pouvait pas dire quoi que ce soit aux parents, c'est les marionnettes qui parlaient. Alors oui, complètement sur le secret, sur l'énigme, la marionnette, elle est extraordinairement précieuse, extraordinaire.
Donc là, il y a un petit échange donc sur les états modifiés de conscience, France, qui pose la question. Mais en fait, est-ce que comment elle dit, les états créatifs, c'est pas un état modifié de conscience? On pourrait parler aussi des transes. On en a parlé un petit peu plus tôt. L'état de transe, enfin, dans les rituels, en musique, parfois, on va avoir cet état-là. J'imagine que dans les arts visuels, dans la marionnette, on va retrouver ça. Viviane, peut-être que tu veux dire ce que tu as écrit.
Non, c'était simplement en effet le lien qui avait été fait par des chercheurs entre les états de création qui dépassent un certain temps. De mémoire, c'était autour des 25-30 minutes qui seraient similaires aux états d'hypnose. Voilà, on retrouve bien cet état de conscience modifié. Après, je trouvais intéressant la question de Justine sur comment tu l'utilises. Et en fait, est-ce qu'on est obligé d'être en conscient qu'on l'utilise, enfin, est-ce que ça devient un outil ou est-ce que c'est simplement le fait d'être dans la création, de le laisser vivre? Voilà, justement le faire et l'être dans ce moment en suspens.
Oui, il y a quelqu'un qui, Michel, qui rajoute l'idée que la personne éveillée, elle reste quand même capitaine du bateau. Donc, c'est-à-dire que même dans un état modifié de conscience, que ce soit un état de création ou de l'hypnose fondamentale, on ne peut pas forcer l'autre à quoi que ce soit. Il y a toujours ce contrôle de. On va là où on le désire, et si on ne veut pas y aller, le thérapeute ne pourra jamais nous y forcer.
Moi, je dirais que ce qui moi, m'importe, c'est qu'on puisse. Il y a un abaissement des défenses immédiates. Il y a un changement, en fait. Que ça soit dans le space spatial, là, dans l'espace. Que ça soit dans les formes de rencontres. On essaye de. En fait, on décombine dans la création. Il y a quelque chose de l'intrigue, du secret, de l'événement, qui, par exemple, un événement traumatique, qui peut tenter de se dire dans une création, et puis parce qu'on passe dans une autre, parce qu'on passe dans une autre forme, on le recombine autrement. Et donc l'idée là, c'est de pouvoir, avec cette stratégie du détour dont on a souvent parlé, qui évidemment pour moi la marionnette, elle est maîtresse pour ça, eh bien ça va être de permettre justement de quitter ces habitudes et ces fixités dans les façons de se protéger. Cette beauté de l'extérieur, en fait, elle est l'écho de cette beauté intérieure qui est en chacun et qu'il est important d'aller rencontrer. Et tous les sens, évidemment, nous y convient. Donc, moi, je crois que nos ateliers d'art-thérapie, ils doivent être cette offre immense, voilà, selon nos goûts, bien évidemment, mais c'est cette offre immense, voilà. Belle respiration aux uns aux autres.
Merci Anne.
Merci Anne.
Merci à vous. Grand
Et d'ailleurs,
merci.
les échanges nous permettent très bien de faire la transition vers l'intervention qui suit, ce qui était question de marionnettes et tout. Donc, bonne pause.